Bonjour chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver pour ce journal dont le sujet est, je crois, très important. Et j'ai le plaisir donc de recevoir dans le studio M. Philippe Prévost, historien qui est un habitué de ce lieu d'ailleurs, puisque qu'il est intervenu déjà à de nombreuses reprises, y compris à mes émissions, mais pas seulement. Mais Philippe Prévost vient de sortir aux éditions La Seule France un livre qui me croit, qui à mon avis est extrêmement éclairant sur la condamnation de l'action française et du thomisme. Alors la condamnation de l'action française, c'était en décembre 1926, donc nous fêtons le centenaire, donc c'était pourquoi. C'était l'occasion de revenir sur cet événement. Cet événement, d'ailleurs, qui a été l'objet de la journée du CEP le 28 février, et que le moment venu, j'annoncerai ici, d'ailleurs, la mise en ligne des vidéos qui ont été tournées pour les conférences de cette journée, dont la conférence de Philippe Prévost. Et pour en venir à ce sujet. Alors, je rappelle quand même que les auditeurs qui ont des questions peuvent les adresser à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Et les questions, alors toutes les questions ou toutes les informations qui sont données sous cette forme ne sont pas répercutées immédiatement au micro, mais sachez que même si pour des raisons ou autres, elles n'arrivent pas immédiatement au micro, elles sont lues avec attention, elles sont transmises éventuellement aux invités, et vous pouvez recevoir des réponses, même si ça n'a pas pu se faire au cours de l'émission, ce qui est évidemment la meilleure solution. Effectivement, là, Philippe Prévost me signale que ce livre, donc « Aux origines intellectuelles de la condamnation de l'action française et du thomisme », sera dédicacé le samedi 2 mai, donc le samedi qui vient, de 15h à 18h à la librairie Logos, 115 avenue de la Bourdonnais, Paris 7e. Donc, avis à ceux.
Tout à côté de l'école militaire.
Exactement. Avis à ceux que. Nous le rappellerons en fin d'émission d'ailleurs, avec les annonces. Mais avis à ceux qui voudraient évidemment, outre le plaisir d'avoir une dédicace sur le livre, l'occasion de poser une question à Philippe Prévost, donc qui, je rappelle, est historien, dont c'est, je ne dis pas le sujet préféré, parce qu'il a beaucoup de sujets à son actif, il a peut-être une dizaine de livres, si je ne m'abuse.
Oui, à peu près,
mais qui s'est intéressé particulièrement à deux événements majeurs, sur la politique française d'une part, et sur le fonctionnement, je dirais presque la nature de l'Église catholique, les événements étant le ralliement de Léon XIII à la République, hein, ce qui était quelque chose d'extrêmement surprenant, et la condamnation de l'action française par Pie XI, ce qui était également quelque chose qui peut paraître surprenant, mais qui, comme vous le verrez, n'est peut-être pas si surprenant que cela. Et à titre d'introduction, pour vous montrer la pertinence de cette question, et la pertinence pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui transparaît derrière ce livre, c'est le fait que les décisions qui ont été prises à ce moment-là, donc il y a un siècle, ont une portée qui s'étend sur ce que nous vivons aujourd'hui, tant du côté de l'État que de l'Église d'ailleurs. Alors, le livre est préfacé par l'abbé Guillaume de Tannouarn, que les auditeurs connaissent puisqu'il a une émission.
Son émission à Radio Courtoisie, autant que je me rappelle.
Mais cette préface est vraiment remarquable. Et alors, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé dans la préface. Et pendant que je profite de vous avoir en face de moi, Philippe Prévost, pour vous les poser. Alors, déjà, la condamnation a été faite en 1926. Alors, c'était une condamnation, je vais dire, presque inique, puisque on condamnait des gens qui étaient des militants politiques, disons des nationalistes, mmh. ou des royalistes, ou des, mais enfin, qui avaient plutôt une approche positive de l'Église catholique, même s'ils n'étaient pas eux-mêmes croyants, ce qui était le cas de Brasse,
comme le cas de Morat,
de Bainville, ce qui était le cas d'un grand nombre des dirigeants de l'Action française. Bon. Donc, mais ces gens, je dirais, à l'issue de leur réflexion politique, en étaient arrivés à la conclusion que l'Église catholique jouait un rôle positif dans le paysage politique et dans l'histoire de France. Et bon, cette conclusion, je pense, est assez facile à établir, hein, mais c'est vous qui êtes historien qui allez le dire. Alors, par contre, cette condamnation s'est étendue à durer 13 ans. C'est-à-dire que pendant 13 ans, si j'ai bien compris, les gens qui étaient abonnés à l'Action française ou qui restaient abonnés malgré la condamnation étaient considérés comme des excommuniés, ne pouvaient pas être enterrés à l'église, ne pouvaient pas recevoir les sacrements, ce qui est quand même une condamnation extrêmement... c'est une excommunication, on peut le dire.
Oui, c'est
donc,
ça, oui.
Alors, qu'on puisse excommunier les gens, ça, je ne le nie pas, mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et là, on avait une sorte d'excommunication collective sur des centaines de milliers de personnes. Et ça a eu des conséquences dans les campagnes, ça a eu des conséquences dans l'Église, bah, nous le verrons tout à l'heure. L'abbé Tannouin dit, au fond, après, tout le monde en avait honte de cette condamnation, et y compris les gens de gauche, qui évidemment n'avaient pas de sympathie particulière pour l'Action française, qui étaient des adversaires intellectuels de l'Action française, mais qui ne comprenaient pas la façon dont Pie XI avait agi. Est-ce que c'est...
Mais oui, parce qu'il faut bien voir une chose, c'est que la condamnation, il faut partir des dates. Les dates en histoire sont très importantes, contrairement à ce que pensent les gens. Maintenant, on ne veut plus faire d'histoire avec les dates, vous comprenez, on cause ça déjà. Mais l'Action française est condamnée en 26, et la condamnation est levée en 39. Pourquoi ? Mais parce que les époques sont différentes. En 1926, le pape Pie XI, tout à son désir, qui se comprend très bien d'ailleurs, d'éviter à l'Europe une nouvelle guerre. Car Pie XI a vécu la guerre de 1914. Enfin, il l'a vécu en ce sens qu'il l'a vu. Il n'a pas fait la guerre lui-même, mais il a vu ce que ça donnait. Le carnage que c'était.
Et il a vu les conséquences de la guerre, puisqu'il était nonce en Pologne, donc il était quand même sur le terrain après la guerre.
Après, il a vu les conséquences.
Et ça l'a marqué.
Mais surtout, ce qui l'a frappé, c'est que cette guerre était une guerre, au fond, une guerre fratricide entre Européens. Et il s'est bien rendu compte que si ça recommençait, l'Europe disparaîtrait, finalement, de la scène internationale. Et c'est ce qui se passe actuellement. On pense, par exemple, qu'en 1905, la conférence d'Algeciras, qui se réunit sur le Maroc, comprend tous les pays européens importants, y compris l'Autriche-Hongrie, et pas les États-Unis. On n'a pas idée d'inventer les États-Unis à la conférence d'Algeciras. Aujourd'hui, rien ne se passe sans les États-Unis. Et les Européens, regardez ce qui se passe au Proche-Orient. Alors que le Proche-Orient est à nos portes, nous comptons pour du beurre actuellement. On peut le dire comme ça. Ce que nous pensons, ce que nous ne pensons pas, tout le monde s'en fiche, finalement. On voit quand même que Pie XI, partant d'un raisonnement sain, arrive à des conclusions catastrophiques. Pourquoi ? Parce qu'il s'imagine que la cause de ce retour, c'est évidemment l'Action française. L'Action française, dans son esprit, refuse absolument la réconciliation avec l'Allemagne. Alors qu'à ce moment-là, il faut bien voir qu'en 1926, ça arrive un événement, en 1925 plus exactement, arrive une série d'événements qui comble Pion de joie. Premier événement, d'abord, en 25, en 24, c'est le retour de la gauche au pouvoir. Alors, vous me direz, mais pourquoi tu as... La gauche abandonne la politique faite par par la droite.
Alors là, je voudrais intervenir pour peut-être certains auditeurs qui n'ont pas toutes les clés du contexte. C'est que on a cette gauche dont vous parlez, elle est anticléricale.
La gauche est anticléricale, France... entre guillemets.
Voilà.
Parce que Herriot promet de la rupture des relations avec le Vatican. Mais vous remarquerez quand même qu'Herriot ne se presse pas tellement pour opérer cette rupture. C'est-à-dire qu'il faut qu'il donne satisfaction à sa base, mais en réalité, bon, il n'est pas très chaud finalement. Bon.
Non, mais ce que je voulais dire, surtout, c'est qu'il y a eu la... si vous voulez, la séparation de l'Église et de l'État, il y a eu l'anticléricalisme jusqu'à la guerre de 14. Alors, on a fait l'union sacrée pour faire front aux Allemands ensemble.
Oui.
On pourrait...
On pourrait
beaucoup commenter là-dessus.
Mais, on pourrait beaucoup épiloguer là-dessus.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait l'idée d'une réunion de tous les Français, etc. Malgré tout, par rapport au gouvernement antérieur, ce gouvernement Herriot retombe un petit peu dans la lignée l'anticléricale.
Oui, mais le gouvernement Herriot abandonne, par exemple, ce qu'a fait la chambre de droite, c'est-à-dire qu'elle abandonne immédiatement l'occupation de la Roure. Et ça enchante le Vatican. Ça enchante. Et Pion est d'autant plus enchanté en 1925 qu'il arrive, comme ministre des Affaires étrangères, Aristide Briand. Et avec Aristide Briand, c'est l'enchantement absolu entre le pape et Briand. Parce que Briand représente pour lui la possibilité d'avoir une réconciliation avec l'Allemagne. Et c'est d'autant plus évident pour lui que fin 1925, vous avez évidemment la conférence de Le Carnot, qui aboutit à une réconciliation apparente entre la France et l'Allemagne. Il ne faut pas oublier qu'en 1926, vous avez aussi cette réconciliation manifeste entre la France et l'Allemagne lorsque Briand accueille l'Allemagne à la LSDN. La LSDN qui avait été faite contre l'Allemagne. Et Briand lui ouvre les portes avec ce fameux discours « Arrière les canons, arrière les baïonnettes, maintenant place à la réconciliation, place à la conciliation, au discours, c'est maintenant le droit qui va diriger les actions internationales, hein, plus de ces longues cohortes de femmes en deuil, etc., etc. Bref, c'est un discours qui enchante le pape. Le pape Pie XI va soutenir l'action de Briand de son retour au pouvoir en avril 1925 jusqu'à sa mort, qui va pratiquement coïncider avec la fin de son règne, si j'ose dire. Briand va rester au ministère des Affaires étrangères de 1925 à 1932. Et il est soutenu par le pape Pie XI pendant toute cette période. On ne peut pas trouver de meilleur accord entre la France et le Vatican qu'à ce moment-là. On peut le dire.
Oui. Alors, en quoi était-ce mauvais ? Parce que je rappelle aux auditeurs que la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions.
C'est mauvais parce que le pape n'a pas reçu du Christ, évidemment, le pouvoir spirituel, mais pas le pouvoir temporel. Et le pape Pie XI, comme nous tous, comme tous les gens d'époque d'ailleurs, à pas prévoir du tout ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'il ne prévoit pas, il ne peut pas prévoir la crise de 1929 et l'arrivée consécutive au pouvoir d'Hitler et sa politique de revanche. Pourquoi est-ce qu'en 1939, on lève la condamnation? Eh bien, c'est tout simplement parce que les conditions ont changé du tout au tout. En 1926, Pie XI nageait dans l'illusion de la réconciliation franco-allemande. En 1939, au moment de la levée de la condamnation, le 15 juillet 1939, on était quelques semaines de la déclaration de guerre entre la France et l'Allemagne. Et on le sent venir, c'est pas une surprise.
Oui,
échec total pour la politique de Pie XI. Et c'est pour ça que moi je dis que c'est facile à prouver que la politique de Pie XI a été une politique, non pas la condamnation n'est pas due à des raisons religieuses, mais à des raisons politiques. Et les deux dates le prouvent, mais le prouvent surabondamment.
Oui, et alors une des preuve indirecte de ce que vous venez de dire, c'est que la condamnation n'était pas motivée. C'est-à-dire que d'après mes souvenirs, si vous voulez, l'Inquisition a apporté deux grandes innovations dans la justice en Europe. La première innovation, c'était que l'accusé devait savoir de quoi il était accusé. Et la deuxième, c'est que l'accusé devait avoir un défenseur. Et,
oui.
Et ça, ce sont des fondements très importants de la justice. Or, dans le cas de la condamnation de l'Action française, finalement, il n'y a pas eu de motif officiel de la condamnation.
Mais il ne pouvait pas y avoir de motif officiel, oui. C'est là le problème.
Oui, mais
c'est tout le drame du pape. Parce que, en fait, le pape s'appuie sur la philosophie de Saint Robert Bellarmine, qu'il va canoniser en 1923. Béatifié en 1923, canonisé en 1930 et déclaré père de l'Église en 1931. Docteur de l'Église, oui, en 1931. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce que Saint Robert Bellarmine a une théorie du pouvoir, ce qu'on appelle la théorie du pouvoir indirect. Saint Robert Bellarmine, je le rappelle, vit entre 1550 à peu près, grosso modo, et 1630. Bon. Et son but, c'est d'arriver à sauver ce qui peut être sauvé du pouvoir du pape. Car entre le pouvoir du pape a été très contesté par la réforme. Puisque, avant la réforme, rien ne se décidait sans l'accord du pape. Le pape était vraiment, je parle dans les pays chrétiens, bien
c'était
sûr.
C'était l'arbitre...
C'était l'arbitre suprême.
Suprême, voilà.
Alors, Luther
quand vous dites rien ne se décidait, enfin, c'est, beaucoup de choses se décidaient sans le pape, mais on ne pouvait pas...
Des choses importantes, quand même.
Voilà, mais on ne pouvait pas éviter, même... Oui. On ne pouvait pas éviter l'idée que n'importe quel acte des princes pouvait donner lieu à des sanctions. Et par exemple, il y a eu l'interdit porté sur le royaume de France à un moment donné.
Oui.
Alors l'interdit, impliquait que les catholiques français n'avaient plus accès au sacrement. Et ça, c'était une... dans le contexte de l'époque, c'était extrêmement grave.
Mais que les Français, que les gens étaient délivrés de leur serment de fidélité vis-à-vis du prince. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait se révolter contre le prince sans problème.
C'est ça. Alors évidemment, pour nous, le problème, c'est que Saint Robert Bellarmine vit dans un contexte où il y a encore... Malgré la réforme, etc., il y a encore une certaine chrétienté.
Essaye de sauver un minimum du pouvoir pontifical. Et c'est ce qu'on va appeler le pouvoir indirect. C'est ce que, Vittoria, qui est l'un des grandes lumières de l'école de Salamanque, va appeler le pouvoir indirect. Et Saint Robert Bellarmine va codifier ça en disant que le pape a un pouvoir direct, évidemment, tout le monde est d'accord, sur les sacrements, etc. Ça, c'est incontestable. Mais il a aussi un pouvoir indirect qui lui reste quand il s'agit du salut des âmes, du bien de la religion, ou de la, disons, de la conservation d'Église. Eh bien, à ce moment-là, il a un pouvoir qualifié d'indirect, et tous les catholiques doivent absolument le respecter et lui obéir coûte que coûte. Et ça, c'est un... Parce que, vous comprenez, ces trois choses, salut des âmes, bien de la religion, et, et le fait que l'Église, mais la conservation de l'Église, c'est très extensif. Hein. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça donne au pape quand même un pouvoir qui est un pouvoir, je ne dis pas quasi illimité, mais presque.
Oui, hein. Même si c'est indirect, c'est quasi universel.
Oui,
oui, c'est...
Oui.
Alors, il y a une conséquence que justement que l'abbé Tannouarn, dans sa préface, a bien vue, c'est que justement, on a imposé une sorte d'obéissance aveugle aux membres de l'Action française, qui étaient catholiques. Et pour l'abbé Tannouarn, ça peut expliquer le fait qu'au moment de la crise conciliaire, la France ait été un peu en pointe parmi les pays dans lesquels il y avait des gens qui ont dit non, parce que là, je cite l'excellente formule du père Lalloine, il dit les laïcs auxquels on avait déjà fait le coup de l'obéissance ne se sont pas laissés avoir. Autrement dit, il s'est trouvé en France, c'est ça, alors chez les laïcs, mais aussi chez des prêtres d'ailleurs, hein, beaucoup plus de gens capables de dire non face aux innovations de Vatican II que dans les autres pays. Et c'est peut-être un des fruits indirects, finalement, du sacrifice qu'ont fait les gens d'Action française.
C'est possible. Mais au moment de 1926, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en vertu de ce qu'avait dit Saint Robert Bellarmine, qui n'était pas encore saint à l'époque, en 1926, il était bien heureux Robert Bellarmine, le pape exige une obéissance absolue. Car Robert Bellarmine avait codifié que les catholiques devaient obéir coûte que coûte au pape. Comme ça s'était passé de son temps, lorsque le pape avait excommunié le prétendant Henri IV, le futur Henri IV, il l'avait excommunié et il avait interdit de succéder à Henri III en disant qu'il était... J'étais pas catholique, il était relapse, etc., etc. Tout simplement parce qu'Henri IV ne voulait devoir sa couronne qu'à la légitimité dynastique. Il ne voulait pas devoir sa couronne à un parti quelconque. Et en particulier, il ne voulait pas devoir sa couronne aux catholiques qui étaient les plus extrémistes, c'est-à-dire les gens qui étaient
Le duc de Guise et l'Église. Enfin les...
Oui, oui, il ne voulait pas devoir sa couronne à l'Église. Mm-hmm. Il voulait devoir sa couronne aux règles dynastiques, simplement. Et alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que donc, Robert Bellarmine dit « Tout catholique doit une obéissance absolue au pape dans ces domaines-là. » Ces domaines qui, je rappelle, sont très extensifs. Et ça enchante, évidemment, le pape Pie XI. Parce que tout mon effort a été de montrer que quand on observe Pie XI, Pie XI a été formé, un pape, comme toute personne, a subi des influences quand il était jeune.
Alors, à ce sujet, justement, un auditeur demande si le Pie XI n'était pas jésuite. Alors je crois qu'il ne l'était pas.
Pas du tout.
Mais
du
malgré tout. Il y a l'influence de jésuites qui est très importante sur sa formation.
Oui, l'influence, pas des jésuites, l'influence de certains jésuites, et en particulier l'influence de Taparelli, d'un côté, et puis l'influence de Léon XIII, et l'influence de Liberatore.
Que Léon XIII était jésuite.
Non, pas du tout.
Il n'est pas jésuite, non plus.
Mais Léon XIII, il ne faut pas oublier que Taparelli, au début du XIXe siècle, se trouve devant le problème suivant. La théologie se trouve un peu en lambeaux à ce moment-là. Il faut bien reconnaître. La théologie, Bon, la théologie, de toute façon, il y avait un discrédit total de la théologie thomiste, qui n'était plus enseignée dans les séminaires. Dans les séminaires, on enseignait une espèce de pâté d'alouette qui était mal digéré entre des théories inspirées par Descartes. Tout ça, c'était mélangé et tout. Et Taparelli veut reprendre les choses. Et il dit, mais au fond, pourquoi ne reviendrait-on pas à la théologie traditionnelle? Mais la théologie traditionnelle telle qu'il entend, c'est la théologie...
À la philosophie traditionnelle.
La théologie de Suarez. Et c'est donc une néo-théologie. Mais notre ami Taparelli, qui est tout jeune à l'époque, qui vient de rentrer dans le nouvel ordre des jésuites, parce que l'ordre des jésuites a été rétabli, si je me rappelle bien, en 1814, par le pape Pie VII.
Alors Taparelli, pour les auditeurs, est né en 1793.
Oui, Taparelli est né en 1793. Il est d'une grande famille italienne, d'une grande famille qui va donner des premiers ministres. Son frère va être premier ministre juste avant Cavour. Oui. C'est dire que c'est quand même une famille importante.
Importante, mais favorable à l'indépendance italienne.
Oui.
Au Risorgimento, etc. Donc, qui ne voit pas d'un mauvais œil la réduction des États pontificaux.
Bah, lui, il ne s'engage pas trop là-dedans.
Oui,
hein.
Oui, mais son frère. Son frère.
Entre les deux frères, d'ailleurs, il y a une certaine bagarre, quoi. Mm-hmm. Ils ne sont pas toujours d'accord, loin de là. Hein. Alors, Taparelli, donc, qui est nommé très jeune, responsable du Collège romain, va avoir comme élève un dénommé Pecci, le jeune Pecci, qui aura une belle carrière, puisqu'il terminera sa carrière sous le nom de pape Léon XIII. C'est lui qui deviendra pape en 1878.
Et c'est lui qui fera le ralliement.
Oui, c'est... alors bien sûr, notre ami Taparelli sera mort à l'époque. Il meurt, en 1662. Mais son ami Liberatore, qui est l'un des fondateurs de la revue La Civiltà Cattolica, la grande revue jésuite, fondée à la demande de Pie IX, eh bien, Liberatore aura comme élève un tout jeune prêtre qui s'appelle tout simplement Ratti.
Ratti
qui va devenir pape lui aussi sous le nom de Pie XI. Et Ratti va faire sa thèse de philosophie avec Liberatore, qui va être, il faut dire qu'il va être certainement assez content de la thèse de son jeune élève, puisqu'il va obtenir du pape Léon XIII, une audience pour le jeune abbé Ratti et pour un de ses collègues. C'est des choses extraordinaires. Quand on pense qu'un pape, qui a quand même certainement beaucoup d'activités, dispense une partie de son temps pour recevoir. Et qu'est dit-il à l'abbé Ratti ? Eh bien, il lui dit, écoutez, moi je viens de rétablir, et c'est vrai, de rétablir le thomisme, l'important du thomisme, puisque Léon XIII a fait sa grande encyclique Eterni Patris pour remettre en honneur la
philosophie thomiste.
La philosophie thomiste. Il a aussi fondé le collège thomiste, dans lequel a reçu sa formation d'ailleurs l'abbé Ratti, et il lui dit, écoutez à tous ces deux jeunes, aidez-moi à rétablir la philosophie thomiste, je compte sur vous les jeunes pour m'aider. C'est quelque chose d'extraordinaire. Deux jeunes prêtres reçus par le pape qui leur dit, aidez-moi à rétablir. Voilà, c'est un ordre de marche. Ce qui explique, à mon avis.
C'est un ordre de marche pour toute la vie.
Ça. Oui, c'est ça. Et ça explique en grande partie, à mon avis, la raison pour laquelle une des premières choses que fera le pape Pie XI quand il sera élu, ce sera de faire une encyclique en faveur du thomisme, ou de ce qu'il croit être le thomisme. Parce qu'en réalité, c'est du néo-thomisme. C'est-à-dire que c'est un thomisme dévoyé.
Alors justement, en quoi est-il dévoyé? Quelle est la,
ah ben voilà.
Quelle est la différence? Parce que ça, c'est un point que vous, évidemment, vous abordez, vous êtes plus qu'abordé dans votre livre, parce que c'est vraiment presque essentiel.
Et ça, ah, tout à fait.
C'est d'autant plus essentiel que l'incidence continue. De la même façon que la condamnation de l'Action française a eu des conséquences, et j'en ai cité une tout à l'heure dans le fait qu'il s'est trouvé en France un certain nombre de laïcs pour ne pas vouloir obéir les yeux fermés à tout ce que demandait le pape ou l'Église de l'époque. Et de la même façon, il y a eu, dans la pensée philosophique, et pas qu'en France, là, parce que le thomisme, cette revitalisation du thomisme, dans l'esprit en tout cas de Léon XIII, ça valait pour toute l'Église. Alors, est-ce que ça a eu vraiment une incidence dans les séminaires, dans le monde entier, ce retour du thomisme? Est-ce qu'on peut répondre à cette question?
Oui. Ah oui, parce que quand même, il ne faut pas oublier, l'Église est une société hiérarchique. Il ne faut jamais oublier ça.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que quand ça part du haut, ça descend très vite vers le bas.
Et c'est vrai que je constate qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a, disons, une influence thomiste importante sur les théologiens, je dirais, un peu traditionnels. Il y a vraiment un souci de revenir à la pensée de saint Thomas.
Oui, alors, quelle pensée de saint Thomas? Voilà, est-ce que c'est la pensée originale ou est-ce que c'est la pensée arrangé.
Oui, mais je pense, dans ce que je constate, les correspondants que j'ai, c'est vraiment la pensée originale, parce que c'est toujours, on remonte toujours à la Somme théologique et à saint Thomas. On ne s'arrête pas à citer des Suarez, des Vitoria, etc., qui par ailleurs, d'ailleurs, peuvent être des gens extrêmement intéressants. Il ne faut pas croire que parce qu'on voit les conséquences qu'ont eues certaines orientations prises par Vitoria ou par Bellarmin, je veux dire, si Bellarmin était canonisé, il y avait aussi des raisons objectives de le faire, indépendamment peut-être de certaines orientations philosophiques qu'il avait prises. Si vous voulez, la philosophie, on canonise des gens qui, sur le plan de la pensée, n'ont pas toujours été justes. Ça, c'est...
Non, puis non seulement ça, mais c'est que savoir, l'école de Salamanque, puisqu'ils appartiennent tous à l'école de Salamanque, ce dont on parle là tout de suite, l'école de Salamanque, c'est pas n'importe qui. L'école de Salamanque, c'est une école qui... il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'Église se trouve confrontée à des découvertes tout à fait essentielles. Jusqu'ici, le monde gréco-romain, et qui continue au Moyen-Âge, se limitait simplement, évidemment, à la Méditerranée. Au XVe et XVIe siècle, les grandes découvertes, amène à se poser des tas de questions.
C'est le nouveau monde.
C'est le nouveau monde, mais c'est surtout ce qui intéresse les théologiens, ce sont les nouvelles personnes. Est-ce que, par exemple, la controverse de Valladolid, est-ce que ces gens ont une âme ou pas? On découvre des sauvages qui ne parlent pas du tout comme nous, qui ont des mœurs totalement étrangères. Alors, est-ce qu'on peut les considérer comme des hommes ou comme des bêtes? Tout ça, ce sont des grands sujets qui ne sont pas anodins.
Oui. D'ailleurs, je veux dire que sur ce plan-là, la papauté a très bien réagi et, par exemple, a interdit que l'on réduise en esclavage les Indiens en Amérique latine. Et là, vous savez, on avait créé ce qu'on appelle la propaganda fide, l'organisme pour la diffusion de la foi catholique. Et le premier secrétaire de cet organisme, alors, dans une sorte de circulaire, a eu une phrase qui, pour moi, est extrêmement éclairante, où il dit, à propos donc des missionnaires qui partaient évangéliser dans le monde entier, il dit « Ne cherchez pas à les occidentaliser ». Ça, oui. C'est quand même étonnant.
C'est extraordinaire,
au début du XVIIe siècle. Il a dit l'indigène doit rester fidèle à sa culture, à son roi, etc. Dans toutes ses mœurs, dans ce qu'elles ont d'honnête.
Oui.
Donc, évidemment, les sacrifices humains, etc., bon, tout ça, il faut quand même les refuser. Mais dans tout ce que les mœurs. Les règles, les fonctionnements politiques ont d'honnête, eh bien, le missionnaire ne doit pas chercher à occidentaliser. Je veux dire que si on avait appliqué cette règle au Rwanda, par exemple, on n'aurait pas eu les drames que l'on a connus. Donc, c'était pour défendre un petit peu l'idée que ça n'est pas parce qu'il y a des papes qui ont commis des erreurs majeures, mais précisément dans un domaine qui n'était pas le leur.
Oui. Hein?
Alors que cette formule « ne cherchez pas à les occidentaliser », elle faisait bien la différence entre ce qui était de nature lié à la foi et ce qui était de nature lié au fonctionnement politique des sociétés dont il fallait respecter les différences.
Ah oui, et ça retrouve d'ailleurs ce que je disais, c'est-à-dire que finalement, l'école de Salamanque est une très grande école. Il ne faut pas non plus dire, voilà, les gens qui ont fait partie de cette école, ce sont des gens ils ont trahi Saint Thomas. Alors, sur certains points, bien sûr, ils ont trahi Saint Thomas sans s'en apercevoir. C'est ce qu'on peut dire d'ailleurs aussi de Pie XI. A hérité de cette trahison par intermédiaire, comme je disais, de Taparelli, etc., etc. Mais il croyait de bonne foi, je suis persuadé, moi, Pie XI croyait de bonne foi, être un thomiste de pure
observance,
si j'ose dire. Hein? Alors que, en réalité, c'était un thomiste qui était quelqu'un de... qui avait dévié complètement.
Alors justement, quel est le point important chez saint Thomas qui a été écarté ou oublié chez les néo-thomistes?
C'est le bien commun. Car les thomistes véritables considèrent que, comme saint Thomas ou Aristote, ils considèrent que l'essentiel, c'est l'intérêt du tout. L'intérêt du bien commun général. Alors que depuis le XIIe, XIIIe siècle, en particulier avec les nominalistes, avec Occam, parce qu'il faut remonter à la querelle des universaux pour comprendre les choses, avec Occam et tout ça, ce qui prime, c'est l'intérêt de l'individu. Ce sont les droits individuels. Et ça, c'est capital. Car le droit de la collectivité, pour saint Thomas et pour Aristote, c'est plus important que le droit individuel. Alors que pour les autres, avec les nominalistes et autres, ce qui est le plus important, sont les droits individuels, les droits de chacun, les droits de l'homme. Ça va devenir les droits de l'homme. Parce qu'au XVIIIe siècle, on va supprimer Dieu, évidemment, et on va le remplacer par l'individu. C'est l'individu qui est roi.
Ça, pour aller dans votre sens, je veux dire que ça n'est que tout récemment que j'ai compris l'importance de la formule aristotélicienne qui dit que l'homme est un animal politique.
Oui.
C'est-à-dire qu'il est par nature un animal politique. Donc sa présence dans la société, elle est de nature et on n'a pas besoin de construire artificiellement une société avec un contrat social, si vous voulez.
On a besoin des dieux pour expliquer, par exemple, les Grecs pensaient que c'était Athéna qui avait fondé Athènes. Aristote dit, mais pas du tout. C'est pas Athéna qui a fondé Athènes. Enfin, c'est à ça que ça revient à dire. Mmh. Mais Athènes s'est fondée tout simplement parce que, effectivement, l'homme est un animal social. Il a besoin de vivre avec d'autres hommes, de vivre en collectivité.
Et à ce moment-là, on est dans le réel, c'est-à-dire que les sociétés préexistent à chacun des hommes qui les constituent. Oui. Et dans ce qui est tout à fait absurde avec l'idée de contrat social, alors c'est plutôt Hobbes qui a lancé cette idée. Ça n'est pas, elle est peut-être même antérieure, d'ailleurs, mais c'est pas du tout une invention de Rousseau, contrairement à ce que certains Français pourraient penser. Mais on ne voit pas où, quand, comment et pourquoi des gens auraient fait un contrat social pour constituer une société. Il n'y a jamais eu de...
C'est artificiel, le contrat social ne tient sur rien du tout. Hein? J'abandonne ma liberté pour que les autres aussi abandonnent la leur, et comme ça, tout ça, ça ne tient pas debout. Ce sont des choses complètement éthérées.
Alors, ça ne tient pas debout, mais malgré tout, les néotomistes ont tenu la rampe, et peut-être la tiennent encore... dans beaucoup d'universités, ou dans. Enfin, je sais pas, il y a un grand philosophe comme Maritain, qui n'est quand même pas le dernier venu, on peut le considérer que c'est un néotomiste, Maritain.
Ah, tout à fait. Alors, tout à fait. Maritain est un néotomiste.
Et qui a eu beaucoup d'influence politique, qui a été ambassadeur de France à.
Oui, mais ça, à Rome, c'est pour des raisons. Oui, c'est pour des raisons politiques, parce que. Bon.
Oui, mais quand même, il me semble que pendant la guerre, les Américains ont balancé au-dessus du territoire français des tracts, même déjà en 42. Enfin, petite proclamation de Maritain.
Et puis Maritain a eu aussi une très grande influence au moment du Concile. Il ne faut pas oublier que le pape Paul VI voulait en faire un cardinal.
Oui, parce qu'effectivement...
C'était extraordinaire.
On peut être cardinal... D'ailleurs, on peut être historiquement, cardinal sans on peut être cardinal prêtre, sans être prêtre,
ni quoi que ce soit. Hein? Il y a eu, d'ailleurs, je crois, au XIXe siècle, un cardinal qui était cardinal secrétaire d'État et qui n'était pas prêtre du tout, qui était un laïc.
Oui, d'ailleurs, bon, c'est pas du tout...
Maritain, effectivement, à un certain point. Mais il ne faut pas oublier non plus que vous avez eu en 1930 et autres, toute une philosophie personnaliste, comme ils disent, c'est-à-dire donnant la primauté, vraiment, affirmant la primauté de la personne par rapport à tout le reste.
Parce que je parlais de Maritain, c'est parce que la condamnation de l'Action française a eu un rôle sur sa...
Ah ben bien sûr, sur beaucoup de gens, d'ailleurs.
Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ça?
Ah ben, Maritain était évidemment, c'était quelqu'un qui... Il y a deux Maritains, finalement. Il y a le Maritain des Trois Réformateurs, qui est un Maritain... très classique, ouais. Qui a un Maritain, disons, d'Action française, et puis il y a eu le Maritain de l'humanisme intégral, alors ça, parce qu'il a été détaché par le pape de l'Action française, le pape l'a convoqué à Rome, il a eu deux réunions, deux audiences.
C'est pas indirectement la condamnation de l'Action française, c'est vraiment...
La condamnation de la française l'a fait réfléchir, mais il avait sorti un livre... qui s'appelait un livre justifiant l'action du pape, mais de façon indirecte.
Mais après la condamnation,
ou avant. Après la condamnation. Après, oui. Et le pape le convoque pour lui dire non, 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 moi je suis pas d'accord. Moi j'ai fait ça de façon directe. C'est mon pouvoir direct. Et ça vient évidemment de Saint-Robert Bellarmine. Il dit non, j'ai pas condamné l'Action française par accord, par accroc, si j'ose dire, par à côté. Non, je l'ai condamné totalement par mon pouvoir, puisque à l'époque, évidemment, c'était 26-27, beaucoup de gens disaient, mais c'est incompréhensible cette condamnation, le pape condamne pour des raisons politiques. Non, 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 dit le pape, je condamne pour des raisons religieuses. Et d'ailleurs, Pie XI dira toujours qu'il n'a jamais condamné l'Action française pour des raisons politiques, qu'il l'a faite pour des raisons religieuses, et uniquement religieuses. Alors tout le monde se dira, mais c'est fou, quoi. Comment peut-il... Parce qu'il fallait passer par tout simplement par Saint-Robert Bellarmine.
Voilà, c'est ça.
Mais ça, le pape ne le dit pas. Alors la plupart des gens, évidemment, ne le comprennent pas du tout. On parle autant qu'à l'époque, Saint-Robert Bellarmine. D'ailleurs, il y a une réflexion très, très curieuse de Monseigneur Cardinal, comment il s'appelle
Biot.
Le cardinal qui est en même temps directeur de l'Institut catholique de Paris, avant-guerre. Le cardinal. Qui dit on me demande de faire un panégyrique sur. Je dois faire un panégyrique sur Robert Bellarmine, dont que le pape vient de tirer de l'oubli. Parce que Robert Bellarmine était complètement oublié en 1920-1926. Vous voyez, mais que c'est Robert Bellarmine, c'est fou. On lui dit, non, il faut absolument faire un truc sur... Et il dit lui-même, c'est dingue.
Il a dû faire de la recherche pour retrouver les éléments de façon à faire le panégyrique.
Oui. C'est ça qu'il faut voir, qu'il faut bien voir. Robert Bellarmine est oublié et le pape qui dit moi je vais condamner l'Action française pour des raisons religieuses et uniquement pour des raisons religieuses. Les gens sont stupéfaits.
Alors nous allons, ça c'est un point très important sur lequel nous allons revenir à l'issue d'une petite pause musicale que vous pouvez lancer.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, je salue les auditeurs qui ont pu prendre l'émission en route. Donc je rappelle que nous sommes à l'écoute du journal dominical Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par Dominique Tassot, avec comme invité... À ma droite, M. Philippe Prévost, historien, qui vient de publier aux éditions La Seule France un livre vraiment passionnant que j'ai lu et que j'ai relu sur les origines intellectuelles des condamnations de l'Action française et du thomisme. Et nous avons en ligne Mme Nicole Boucher, que je salue. Donc Madame Boucher qui nous parlera de son père, un militaire d'exception, le colonel Marcel Le Guenec, dans la guerre et dans la paix. Et vous verrez que cette intervention de Madame Boucher est liée en fait à quelque chose qui s'était dit à ce micro il y a 2 mois, où on avait parlé de la damnatio memoriae et de l'injustice flagrante hein, qui parfois est le, enfin disons que est exercée par les États. Mais avant de, d'en venir au colonel Le Guenec, donc je me retourne vers vous, Monsieur Prévost. Donc nous parlons de l'action française. Ça c'est très connu. Et vous parlez dans ce livre de l'action, de la condamnation du thomisme. Alors, vous venez de nous expliquer un petit peu qu'il y avait le thomisme et le néo-thomisme. Donc, que le thomisme qui a été enseigné au 19e et au 20e siècle, avec d'ailleurs l'exemple flagrant de Maritain, qui est quand même par ailleurs un très grand philosophe, mais qui justement... est sorti de la ligne profonde en ce qui concerne la pensée politique d'Aristote et de saint Thomas. Alors, bon, sur l'action, la condamnation de l'action française, bon, c'est très connu. Par contre, vous parlez, et c'est dans le titre de votre livre, de la condamnation du thomisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, tout simplement ceci. Alors, je voudrais rappeler d'une part que j'ai retrouvé le nom de celui qui allait faire un grand panégyrique d'un inconnu à l'époque qui était Robert Bellarmin, c'était Monsieur Baudrillard, tout simplement. Bon. Recteur de l'Institut catholique de Paris. Et fort célèbre à l'époque. Et maintenant, venons-en à la condamnation du thomisme. Pourquoi condamner le thomisme en même temps ? Eh bien, parce que Beaucoup de religieux, je parle surtout des religieux, étaient très influencés ou étaient trouvaient que la pensée maurrassienne était très proche de la pensée thomiste, avec évidemment l'adéquatio rei et interitus, avec l'empirisme organisateur. Tout ça, ça formait un bloc. Il n'était pas, évidemment, il n'était pas encarté à l'action française, mais il trouvait qu'il y avait des points communs entre la philosophie thomiste et la philosophie de Maurras. Bien qu'il ait, évidemment, qu'il se soit distancé de Maurras à propos de son refus de la foi, ils étaient les premiers à regretter que Maurras n'ait pas la foi, mais il saluait en lui un homme qui amenait les gens à la foi. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous ne pouvez amener les gens à la foi, disons, surnaturelle, que par la foi naturelle, que par la nature des choses. Et Maurras favorisait le passage. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui se convertissaient en étant maurrassiens. Ils étaient avant des catholiques qui avaient abandonné toute pratique, et avec la politique de Maurras, ils revenaient à la foi au fur et à mesure. Donc, parmi ceux-là, vous avez des gens de première grandeur, en particulier le cardinal Billot. Le cardinal Billot était un esprit qui était un catholique de... C'était un thomiste, c'était de première importance. Alors, aviez le père Pegg, vous aviez le père Clérissac, vous aviez toute une série de religieux qui étaient tout à la fois... des thomistes et en même temps des gens favorables à l'action française.
Le père Garrigou-Lagrange aussi.
Garrigou-Lagrange.
Qui était dominicain. Et le cardinal Billot, il était à Rome.
Le cardinal Billot, je crois qu'il était... c'était un jésuite.
Il me semble bien.
Il me semble que c'était un jésuite.
Hein. Alors c'est important parce que je dirais... Les jésuites ou les dominicains, ce sont les ordres intellectuels, disons,
oui,
connus comme tels.
Mais les jésuites aussi, oui, ce sont deux ordres intellectuels.
Voilà. Hein. Et Donc le fait que, parce que vous disiez, enfin, je vais parler plutôt des religieux, etc., mais il y avait aussi beaucoup de curés de campagne qui étaient qui lisaient avec intérêt l'Action française.
Ah ben bien
c'était
sûr.
La diffusion.
Et quand l'Action française a été condamnée, elle était sabrée, non seulement des gens comme le cardinal Billot, etc., ça ont été crossés, mais les directeurs de séminaires, les professeurs de séminaires qui enseignaient souvent le thomisme véritable à la suite de... Parce que le cardinal Billot, parce que Peg, ils formaient des directeurs, de futurs directeurs de séminaires, qui formaient eux-mêmes des prêtres et tout. Donc, les thomistes étaient quand même très nombreux en France.
Et puis, c'est souvent parmi les directeurs de séminaires qu'on recrute des évêques.
Oui.
Donc il y avait beaucoup d'évêques qui
oui,
qui
mais à partir de 26,
évidemment, là, ça n'était plus,
les évêques ça n'était n'ont plus tellement été recrutés dans la même...
Alors il y a un petit détail qui est enfin, sur Maurras, il faudrait expliquer aux auditeurs. On dit que Maurras était sourd, mais j'ai cru comprendre avec vous qu'en fait, il était vraiment sourd. C'est-à-dire que...
Maurras était sourd comme un pot, mais parce qu'il avait perdu l'ouïe complètement à 14 ans. C'est ça qui l'avait amené, d'ailleurs, à... Bien qu'il ait été favorable à la religion catholique, il l'avait amené à perdre la foi.
Oui, parce qu'évidemment, il subissait
une sorte...
C'est le problème du mal. Voilà. Ah.
Comment est-ce que Dieu peut, qui est infiniment bon, peut tolérer le problème du mal? Voilà. Alors que à 14 ans, c'est pas parce que vous avez fait du mal que vous êtes que soudainement tombe sur vous un handicap, parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais quand on est sourd, on est coupé du monde.
Oui, c'est ce que je veux dire, c'est que la condamnation de Pie XI, elle portait sur quelqu'un qui n'était pas catholique, croyant, qui était sourd. Enfin, il y a un côté un petit peu inique dans cette condamnation.
Parce que aussi, il faut comprendre une chose, c'est que Bellarmin dit que le pape n'a un pouvoir indirect que sur les catholiques. C'est-à-dire que le pape ne peut agir que sur les catholiques. Donc, Pie XI, pendant la première partie de son règne, ne va agir que contre les catholiques. Il va agir contre les catholiques d'Action française et il va agir contre les Christéros. Puisqu'il a d'action, Saint Robert Bellarmin lui dit « Vous n'avez d'action que sur les catholiques. » Et c'est ce qu'il fait. Il tape comme un sourd sur les catholiques.
D'ailleurs, une chose amusante, c'est que Bernanos, qui, à ma connaissance, était catholique,
oui.
Avait été encarté à l'Action française, mais ne l'était plus, en 1926, par esprit de contradiction, pour bien montrer son désaccord avec la décision de Pie XI, Bernanos a repris une carte à l'Action française.
À l'Action française, oui.
Et c'est intéressant, parce que ça montre l'importance que pouvait avoir cette condamnation dans la société française. Alors, la condamnation du thomisme, donc, vous avez
la
dit...
La condamnation du thomisme, ce qu'il y a,
gens...
c'est qu'il y a une condamnation qui n'est pas une condamnation. C'est-à-dire que la condamnation de l'Action française, au moins, on sait qu'il y a eu une condamnation. La condamnation du thomisme a été faite en douce, si j'ose dire. Mais de façon terrible.
Parce que, justement, le cardinal Billot... alors, dans Wikipédia, on dit que c'est lui qui a démissionné de son cardinalat.
Oui, bien sûr, mais il y a une démission, vous savez, on vous pousse à démissionner.
Oui.
Hein? Il y a une façon de vous dire, écoutez, cher ami, démissionnez, sinon on va vous démissionner. Il a très bien compris ce qui allait arriver, et il est parti de lui-même. D'ailleurs, le cardinal Billot avait été nommé cardinal en 1911 par Pie X. Et il avait été nommé cardinal contre sa volonté. Il ne voulait pas être cardinal. Pour lui, les honneurs, il se moquait des honneurs.
Oui, c'était un théologien.
Il se moquait complètement des honneurs. Et donc, il a abandonné quand il a été voir, quand Pie XI l'a convoqué, la convocation, les gens s'imaginaient que ça allait faire des éclats et tous les gens du Vatican étaient derrière la porte en disant ça va faire des éclats entre Pie XI et puis le cardinal Billot. Pas du tout. Le cardinal Billot a remis les trucs. Il a dit, vous voulez ma démission? Tenez, la voilà. Je vous la donne. Il a remis ça et il est sorti. Ça a duré 2 minutes, pas plus.
Et il y a l'abbé Le Floch.
Le père Le Floch, directeur du séminaire français de Rome. Le père Le Floch a été, lui, démissionné. Et après, c'est là où on voit qu'il n'a jamais retrouvé, même après en 1939, quand on a levé la condamnation de l'Action française, la condamnation des thomistes n'a jamais été levée. Le père Le Floch n'a jamais retrouvé de poste, quoi que ce soit, après la levée de la condamnation. C'est-à-dire que c'est lié, la condamnation d'Action française et la condamnation des thomistes sont liées. Il n'y aurait pas eu condamnation des thomistes s'il n'y avait pas eu condamnation d'Action française. Et inversement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la condamnation d'Action française est différente, parce que là, au moins, on sait qu'il y a une condamnation. Parce que la condamnation des thomistes, il n'y a pas de condamnation à prendre en parler. On ne peut pas dire, dites-moi à quelle époque la condamnation des thomistes a eu lieu. Je vous mets au défi de me le dire. Mais il y a une condamnation qui n'en est pas une, mais qui est quand même très dure. Car la preuve en est, c'est que les thomistes n'ont jamais retrouvé la place qu'ils occupaient après 1926.
C'est vraiment très important, parce que je pense que ça explique beaucoup mieux ce qu'on peut appeler la crise de l'Église que la condamnation de l'Action française, bon, qui était quelque chose de politique, de limité, alors qu'il y a des effets à long terme. Mais je pense que les effets à long terme de la condamnation du thomisme sont
beaucoup plus importantes.
Prodigieusement importantes.
Ça fait moins de bruit, ça fait beaucoup moins de bruit. Quand vous envoyez dans une cure de campagne éloignée un directeur de séminaire, ça ne fait pas de bruit, a priori. Vous le remplacez par un néo-thomiste.
Oui, mais ça veut dire que l'épiscopat... alors, il faudrait ajouter à cela les balayages dans l'épiscopat après 1945.
Oui,
mais
bien sûr.
Le cumul des deux, c'est-à-dire après 1945, et ça, j'en parle parce que je pense que c'est un sujet sur lequel nous allons revenir dans la suite de cette émission... sont venus après le fait qu'un grand nombre de gens de valeur ont été écartés de l'épiscopat qu'ils étaient thomistes. Alors évidemment, peut-être pas au nom de leur thomisme, mais en pratique, c'est ce qui s'est passé.
Et
je dois dire que... à titre personnel... Il se trouve qu'en 67, de 67 à 69, bon, j'étais étudiant à l'Institut catholique de Paris en philosophie. Il n'y avait absolument aucun enseignement de saint Thomas. Moi, j'ai reçu un enseignement sur saint Thomas parce qu'on était un groupe de 4, et on se réunissait dans une chambre de bonne le soir pour étudier la Sainte Théologique. Mais... dans le cadre du programme, il y avait quand même un cours, un vague cours où on parlait de saint Thomas, mais c'était tout à fait marginal, alors qu'on, évidemment, Descartes, Kant, enfin, évidemment, on avait besoin de suivre les programmes de la Sorbonne, puisqu'à l'époque, la Cato ne pouvait pas délivrer de diplôme, donc il fallait passer les examens à la Sorbonne, donc il fallait un petit peu s'aligner sur le programme de la Sorbonne. Mais je n'ai pas trouvé, effectivement, à la Cato, un saint Thomas ayant la place qu'il devrait
mériter.
De la même façon qu'une chose qui frappait, c'est que vous aviez les acta sancte sedis, donc les actes pontificaux qui étaient en libre accès dans la bibliothèque de travail, si on veut. Sauf Pie X.
Sauf Pie X, évidemment, c'est très révélateur.
Tout à fait, oui. Alors, évidemment, on pouvait les trouver en faisant la démarche d'aller demander le livre à la bibliothèque, mais ils n'étaient pas dans les usuels, comme on dit. Et il y a les usuels qu'on invite les gens à consulter facilement. Pidis n'était pas. Donc ça, c'est bien la preuve d'une orientation générale. Ouais. Et c'est aussi un certain formatage des esprits.
Ouais. Ah, tout à fait, oui, ça c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ce sont des choses concrètes. Hein, très...
Oui, alors, moi je me rendais pas compte de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, mais maintenant je vois que c'était effectivement la conséquence. Écoutez, nous allons maintenant continuer l'émission avec Madame Boucher. Madame Boucher, vous êtes en ligne ?
Oui, tout à
voilà,
fait.
C'est ça. Parce que je vois votre tête, mais je ne voyais pas, je ne vous entendais pas. Donc, je rappelle que Philippe Prébaud a écrit ce livre « Aux origines intellectuelles des condamnations de l'action française et du thomisme ». C'est un livre tout à fait raisonnable en nombre de pages, vous voyez, 148 pages, 15 euros, donc un prix également raisonnable. Qui aborde des questions dont j'espère vous avoir fait découvrir qu'elles étaient vraiment très importantes et ayant toujours leur pertinence. Et de la même façon, là je m'adresse à vous, Madame Boucher, donc pour les auditeurs, je rappelle que vous êtes ardennaise, vous habitez Signy-l'Abbaye, et c'est un village dans lequel il y avait... à la belle époque, je veux dire, une abbaye cistercienne très importante. Hein, vous êtes animatrice d'une association des journées cisterciennes, hein, que vous organisez régulièrement, tous les ans, plusieurs fois par an d'ailleurs, dans le cadre de Signy-l'Abbaye. Mais ça n'est pas là-dessus que nous allons parler maintenant, c'est sur la... ce qui est arrivé, qui m'a vraiment fait réagir quand vous m'en avez parlé, c'est donc suite à l'émission que l'on faisait à ce micro il y a 2 mois, sur ce qui est arrivé à votre père, donc, qui en 1940 était colonel de gendarmerie. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu sa carrière, et puis nous arriverons après au moment... délicat que je laisse les auditeurs découvrir bientôt.
Oui, mon père, c'est Marcel Le Guenec, il était né en 1894 à Beaux, dans le Morbihan, et il avait boursier, famille de 11 enfants. Il reçut au concours de Saint-Cyr en 14, et il a fait partie des Saint-Cyriens qui sont partis sur le front avant d'intégrer l'école. Bon, il a eu une carrière valeureuse, il a été blessé dans le quartier de Tahure, et il a été ensuite il a été fait prisonnier, plusieurs fois il a voulu s'évader. Enfin bon, il a fait sa carrière à la suite de la reprise de l'école après la guerre 14. Il a commencé sa carrière en Syrie, au Maroc. Et à la déclaration de guerre, il se trouvait à Belfort, étant repassé dans la gendarmerie pour la défense du territoire. Et à Belfort, nous avons reçu l'ordre de vous replier vers l'intérieur. La famille a retrouvé la famille en Franche-Comté. Et lui, il a fait la défense de l'Alsace et de Strasbourg. Et notamment, il a confié ses notes à Roger Bruges, qui était l'auteur des Combattants du 18 juin, un livre sur la débâcle. Et puis, il s'est réfugié à l'intérieur de la France en décidant de rester sur son sol. Il ne voulait pas suivre De Gaulle qui partait en Angleterre parce qu'il ne voulait pas quitter son sol. Pour lui, c'était le sol français qu'il défendait. Alors, dans la gendarmerie, il faisait partie de la défense des Français, et il a été repris par le gouvernement de Vichy. Et en 42, il commandait la région Bourgogne-Morvan sans cacher ses convictions. Il faisait partie de la gendarmerie, il faisait en somme le maintien de l'ordre en France en empêchant l'occupant de faire ce maintien de l'ordre et en préservant ainsi les Français d'une mainmise trop forte. Alors, en mars 1943, Pierre Laval avait convoqué les chefs de légion à Paris. Il voulait leur faire approuver des nouveaux pouvoirs attribués aux gendarmes après avoir arrêté les résistants. Mais les résistants, les gendarmes, en principe, n'arrêtaient pas les résistants. Ils étaient d'accord. Et ils ne faisaient que l'ordre. Un seul chef de légion s'est opposé à cette décision, et c'est lui. Et de ce fait, ce décret n'est pas passé. Alors, quand il est revenu à la Légion de Dijon, mon père a été convoqué par le préfet Bernard, qui lui a signifié le mécontentement de l'occupant. Et ceci s'est terminé par sa mise en congé d'activité, finalement en mai 1944. Alors, il est rentré avec toutes les gendarmes de sa légion dans le maquis du Morvan, aux îles Ménéfrier, dans la région de Carrel-les-Tombes, et le gouvernement de Vichy a nommé à sa place son capitaine, Barthuet. En août 1944, le maquis communiste du coin a pris le prétexte de cette nomination en disant que Barthuet était un collaborateur qui avait été nommé à la place de quelqu'un qui était dégagé, et il est allé l'abattre dans son jardin. Mon père a désavoué ce meurtre d'un officier qui était comme lui et qui ne faisait que son devoir sur le sol français. Alors il a décidé de sortir du maquis et d'aller aux obsèques de ce capitaine Barthuet avec les autorités allemandes. Il était rentré à la maison demandant à ma mère de coudre son insigne FFI sur son grand uniforme, et nous ne pensions pas le revoir. Alors, les Allemands n'ont pas osé le toucher. Il est sorti de l'office et il est retourné au maquis.
Alors là, je me permets d'intervenir pour signaler aux auditeurs le côté remarquable et exemplaire. Pour moi, c'est un acte d'héroïsme. C'est-à-dire, en pleine zone occupée, aller à l'enterrement de... Alors, c'est son ancien adjoint, mais enfin, avec, sur son uniforme, le brassard des FFI, il fallait le faire. Enfin, ouais. C'est parce qu'il faut voir le contexte de l'époque, il faut voir l'ambiance. C'est un acte qui méritait justement d'être porté à la connaissance des auditeurs. Je continuais.
Bon, alors il est retourné au maquis, et puis nous sommes allés nous réfugier dans la campagne, le maquis nous ayant indiqué qu'il fallait disparaître, étant donné que les Allemands n'avaient qu'une envie, c'est de nous mettre en déportation. Alors, à la libération, mon père, qui était absolument réglo, il a attendu son réintégration, puisqu'il avait été nommé, il avait été mis dehors par Vichy. Eh bien, il ne l'a jamais vu. Il a été révoqué sans pension pour collaboration. Alors, évidemment, ça a été un choc terrible, et il est allé en Conseil d'État, il a été réhabilité 10 ans après, mais 10 ans après, il était en retraite d'office, et il n'a plus eu aucun rôle. Donc, ceci montre comment un Français qui avait ses convictions n'a pas pu participer au redressement de son pays. Il aurait fallu que les libérateurs venus d'Angleterre donnent la main aux libérateurs qui, sur le sol, avaient maintenu la France. Et ceci, eh bien, c'est quelque chose qui a été loupé. Et je pense que c'est quelque chose qui se retrouve encore maintenant dans la mentalité de notre pays. On a eu une cassure énorme. Voilà.
Parce que, évidemment, ce qui est remarquable dans ce cas, c'est qu'on on a quelqu'un qui avait effectivement pris le maquis, qui avait eu des missions dans les FEFI, donc qui était un résistant. Parce que, si vous voulez, il y a aussi beaucoup de faux résistants qui sont apparus sur le tard.
À la libération.
Hein, ou quelques mois avant, qui ont commencé à donner des gages.
Des résistants tout neufs, et puis qui ont mis de côté les vrais. Donc, la libération a été une période de grand bouleversement, et ça a été une période extrêmement dure et une période qui a marqué notre pays ensuite. Alors, il se trouve que par la suite, il y a un général de gendarmerie qui s'appelle le général Bézanger, qui a écrit ses mémoires et qui a fait parvenir une partie de ses mémoires à mon père au moment où il allait mourir en 1984. Et mon père m'avait toujours dit, il faut que tu demandes au général Bézanger ces mémoires, parce que c'est quelque chose qui serait très bon pour que mes petits-enfants aient une bonne idée de la pensée de leur père. Alors j'ai écrit à Bézanger, et il m'a répondu à ce moment-là, je ne voudrais pas que mes mémoires sont restées inédites, et je ne voudrais pas qu'elles servent pour la réhabilitation de votre père. Alors, mon père n'avait pas besoin d'être réhabilité, il était réhabilité. Mais les successeurs n'ont pas eu le courage de ceux auxquels ils ont succédé. Et c'est très dommage, mais j'aimerais bien que si les auditeurs, certains avaient accès aux archives de la gendarmerie, retrouver ces mémoires du général Bézanger qui maintenant doivent être accessibles. Je pense que le fonds des archives maintenant est accessible, mais je n'ai plus l'âge d'aller les rechercher.
Alors, voilà. Je voulais dire à ce sujet qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de généraux de la gendarmerie.
Non.
Je pense que c'était même l'unique général, puisque la gendarmerie était commandée par un civil. Et oui. Aujourd'hui, il y a plusieurs généraux coexistants dans la gendarmerie. Alors, ça fait chaud au cœur de voir que quelqu'un dans sa position a tenu au moment de la mort du colonel Louennec, aller
le conforter.
Le conforter, voilà. Donc reconnaître sa valeur, la grandeur de l'acte qu'il avait fait, alors que on voit.
Il lui a dit qu'il était l'honneur de la gendarmerie, parce que il avait empêché en 43 donc ce décret de passer, et mon père l'avait fait. Il n'y pensait même plus. C'était quelque chose de normal pour lui. Voilà. Et mon père, il avait quand même. Il ne mettait pas son drapeau dans sa poche. Hein. C'est pour ça que il a été mis dehors. Voilà.
Ça, c'est quand même important à dire. Donc, quelqu'un qui a empêché finalement la gendarmerie de passer sous la coupe directe de l'administration allemande a été, après la guerre, traité comme un traître. Votre commentaire, Philippe Prévost, puisque vous avez des souvenirs d'enfance de la libération.
Ah, tout à fait. Enfin, moi, j'ai été vécu dans une petite région qui était très tranquille. J'étais à côté de Rouen, à 20 kilomètres de Rouen. Alors, effectivement, j'ai vu les... J'étais dans un village, mais les FFI sont apparus quand le dernier Allemand était parti à 20 kilomètres. Ils ont mis des brassards, ils sont baladés avec des flingots, des vieux fusils de 14, mais c'était absolument anodin chez nous. Chez nous, ça a été absolument anodin. Mais on comprend très bien pourquoi votre père a été poursuivi. Parce que n'oubliez pas que ceux qui les poursuivaient, c'était les faux résistants. C'était en particulier ces résistants, les communistes, qui avaient collaboré, jusqu'en 1941, jusqu'au 21 juin 1941, qui avaient collaboré avec les Allemands. Il fallait donc qu'ils se fassent oublier, tous ces braves gens. Hein, qu'ils soient plus résistants que les résistants, quoi, que les véritables résistants. Et donc,
ils sont revenus avec De Gaulle.
Oui, ils sont revenus avec De Gaulle, oui, qui leur a donné un brevet de résistance, alors qu'en réalité, ça a été de bons collabos jusqu'en 1941, quoi. Non, c'était scandaleux, tout ça. On a vécu des époques, une époque absolument scandaleuse, comme 1926, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, évidemment, je pense que beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie savent qu'il y a eu un pacte entre Staline et Hitler, et que pendant toute la durée de ce pacte, le Parti communiste était évidemment dans tous les pays, était dans les meilleurs termes avec l'occupant. Et alors, ce qui est amusant, c'est que le Parti communiste avait demandé d'ailleurs à ce que l'humanité puisse reparaître.
Oui.
Bien finalement,
c'est Vichy qui l'a empêché. Voilà. C'est dommage d'ailleurs.
Ah oui, effectivement, c'est dommage, comme vous dites. Hein.
Oui.
Et ça, ce sont les hasards de l'histoire, enfin, des choses tout à fait contraire à la logique, mais qui se produisent néanmoins.
Vous avez un très bon exemple aussi, c'est celui de Guy Moquet. Tout le monde est là en disant Guy Moquet, oh, c'était un jeune résistant et tout, mais pas du tout. Guy Moquet a été arrêté pourquoi ? Il a été arrêté par la police de Vichy parce qu'il distribuait des tracts en faveur de la collaboration franco-allemande. Voilà. Voilà la vérité. Hein ? Et on en fait un résistant de première grandeur. C'est pas vrai du tout.
Et donc ça, c'est bon, on sait bien que nous vivons dans une société où l'information est un outil de conditionnement.
De désinformation.
Mais c'est la désinformation, bien sûr.
Ouais.
Oui. En tout cas, je vous remercie, Madame Boucher, d'avoir apporté ce témoignage à l'antenne. C'était important, c'était de savoir que il a existé en France. Je pense qu'il existe en France et il existera en France. Des gens de la trempe de votre père. Et donc, je rappelle donc qu'il s'agissait...
Mais il faudrait qu'il y ait un livre qui soit consacré.
Absolument, oui.
C'est ça qui sera intéressant.
C'est important.
Mais Scripta... Oui, mais il faudrait pouvoir retourner aux archives et pouvoir réécrire son histoire, parce qu'il était, comme tous les gens très actifs, il était très modeste. Par exemple, la guerre 14, il ne voulait pas parler de la guerre 14. Il trouvait que c'était trop dur. Il pleurait en disant que c'était épouvantable, la guerre 14. Bon, et puis de cette façon-là, j'ai encore ces dossiers, le double de certains dossiers sur sa défense en Conseil d'État. Oui, effectivement, il faudrait faire un livre sur lui, et j'aimerais bien que certains auditeurs m'aident à rechercher les archives, parce
les archives sont ouvertes. Appel au peuple. Alors, quelques annonces quand même pour la fin de cette émission. Donc, l'Action familiale et scolaire a sorti ce mois-ci son numéro 304, qui, comme d'habitude, a toute une variété d'articles d'un grand intérêt. Et j'en vois un dont le titre est « Réflexion autour de la notion de droit international ». Et je suis sûr que ce seul article mériterait de s'intéresser à cette revue de l'Action familiale et scolaire. Je rappelle également le dernier cahier de Saint-Raphaël sur soulager la douleur, donc un thème d'autant plus important au moment où on vote des lois sur l'euthanasie. Alors, à propos du CEP, donc il y a un nouveau site, donc sur l'adresse le-cep.org. Le site a été complètement rénové. Il a maintenant de nouveau un grand nombre de fonctions. On peut avoir les articles sous forme audio, c'est-à-dire on peut les écouter en faisant autre chose plutôt que de les lire. Il y a même un frère Thomas, c'est-à-dire un assistant auquel on peut poser des questions. Alors c'est l'intelligence artificielle évidemment qui fait ça. Mais donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site rénové du CEP. Et puis, je rappelle donc les journées cisterciennes de Signy-l'Abbaye, donc organisées par Madame Boucher. Alors, il faut aller sur le site.
Mais un site qui n'est pas mis à jour parce que.
Oui, mais ça n'a pas importance. Quel est le nom de ce site?
C'est Signy. Abbaye de Signy.com.fr. Voilà. Donc, abbayetsigny.fr, mais il vaut mieux me téléphoner pour avoir des... Parce que même ce site fait état de mon mail qui, lui, a été piraté. Donc, maintenant, j'ai un nouveau mail qui est nicole.boucher@abbayetsigny.com et le téléphone 03 24 52 87 26. Nous faisons une journée cistercienne tous les ans à la date anniversaire de la mort de Guillaume de Saint-Thierry, à Signy, qui est mort le 8 septembre 1142. Alors, c'est le grand esprit de Signy, étant donné que c'est le conseiller de Bernard de Clairvaux, mais nous avons une deuxième personne, c'est une
oui, mais là, je vous interromps, Madame Boucher, nous parlerons de Marie-Thérèse Noblet un autre jour, parce que elle mérite là une émission pour elle-même, hein, c'est un autre personnage. Et donc, la date de cette journée,
c'est le 6 septembre.
6 septembre, voilà. Et au cas de besoin, vous pouvez aussi vous adresser à la Radio Courtoisie qui transmettra toutes vos questions. Donc, je souhaite aux auditeurs un bon dimanche et je leur dis
à bientôt. Rappeler simplement que je...
Ah oui, et la dédicace, effectivement. Philippe Prévost dédicace son livre samedi prochain,
samedi 2 mai, voilà, à la librairie Logos.
Avenue de la Bourdonnais.
Avenue de la Bourdonnais, oui, je crois que c'est 115, autrement je me rappelle. 115 rue de la Bourdonnais, c'est tout à côté de l'école militaire. Voilà.
Très bien.
De 15h à 18h.
Voilà. Voilà. Bon dimanche à tous les auditeurs et au mois prochain.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Dominique Tassot, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, dimanche 26 avril 2026, de midi à 13h30, et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.